L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, une page d'histoire assez récente et surtout locale. C'est en avril 1917 que les États-Unis décident, après 3 ans de guerre en Europe, de s'impliquer à leur tour dans le conflit. Concrètement, à une époque où l'avion n'en est encore qu'à ses débuts, c'est bien par la mer que les soldats américains vont arriver en Europe. Des convois débarquent donc en Grande-Bretagne, bien sûr, à Liverpool, à Londres, à Southampton, à Glasgow même. Et aussi en France, il y a Bordeaux, Saint-Nazaire et Brest. Chez nous, la première arrivée a lieu le 12 novembre 1917. Et jusqu'en décembre 2018, ce sont plus de 800 000 hommes qui vont mettre pied à terre dans la cité du Ponant. Alors bien sûr, à l'échelle d'une ville, ça va avoir des impacts pour la population locale, même si les soldats rejoignent ensuite le front. Tout un épisode historique auquel notre invité s'est intéressé. On l'a déjà reçu comme dessinateur satirique et politique sous son pseudonyme de Bleuquin, mais Benoît Quinquis est aussi philosophe et historien, et c'est donc sous cette casquette qu'on le reçoit aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi est-ce que l'armée américaine avait choisi, entre autres ports français, Brest comme port de débarquement ?
Alors déjà, disons tout de suite, ce n'est pas entre autres ports de débarquement, puisque Brest a été le premier port de débarquement en France pour les Américains. Vous avez donné les chiffres, ça représente 43% du total du corps expéditionnaire américain en Europe. En comparaison, Saint-Nazaire n'en avait vu passer que, entre guillemets, 198 000.
Donc
vraiment, Brest a été une place très importante. Mais effectivement, pourquoi ? Eh bien en fait, le choix était dicté par des raisons géographiques. Tout d'abord, c'est de Brest où la route vers l'Amérique est la plus courte et la plus rapide. Bon, vous me direz, il faudrait être aveugle pour ne pas le remarquer. Mais en fait, ce qui a surtout été déterminant, ce sont les qualités naturelles du site. En effet, il faut savoir que le transport des troupes américaines n'était pas seulement important en quantité, il était surtout irrégulier. Il n'était pas anormal qu'après une période de calme, plusieurs navires arrivent simultanément. Il fallait donc un port capable d'accueillir plusieurs bâtiments en même temps. Et c'était plutôt rare. Et c'était justement le cas du port de Brest, qui se partageait en 3 zones distinctes qui permettaient cet accueil simultané. C'est donc cet aspect qui était déterminant dans le choix du port de Brest, qui avait aussi l'avantage d'être protégé par un abri naturel formidable, la rade. La rade, en effet, est accessible uniquement par le goulet et permettait aux navires à fort tirant d'eau de mouiller pour décharger le personnel sans accoster à quai, et le tout dans une relative sécurité. Bon, relative, hein, puisqu'il y avait quand même les intents en péril. Et en cas de mauvais temps...
Surtout en novembre, j'imagine, ouais.
Oui, le changement devient difficile. Bon, il n'y a pas eu... Oui, bon, les débarquements ont eu lieu jusqu'à la fin de la guerre. Donc,
oui, c'est ça.
Il n'y a pas eu pendant la mauvaise saison. Hein.
Et pourquoi c'était irrégulier ? Enfin, c'était en raison des disponibilités des bateaux, c'est ça ?
Ben oui, donc... Vous savez, la guerre, c'est une suite de... Je me souviens, dans un album assez récent de Blake et Mortimer, on lit Mortimer qui dit « La guerre est une suite de situations exceptionnelles ».
C'est vraiment ça. Et c'était quel genre de bateau qui était utilisé pour transporter ? Puis combien d'hommes par bateau, à peu près ?
Pour le nombre d'hommes par bateau, je n'ai pas le chiffre exact. Mais je peux vous dire que ce qui était... Donc pour les transports de troupes, on était allé utiliser des paquebots qui étaient reconvertis. Notamment dans le Tas, il y avait un bateau qui était un véritable monstre marin, le Léviathan. Donc
déjà bien nommé, ouais.
Et l'intérêt premier de ces bateaux, c'était même n'a même pas été la qualité ou la quantité, mais plutôt la façon dont ils étaient décorés, entre guillemets. Voyez-vous, une des menaces sérieuses qui rendait le voyage extrêmement angoissant, c'était les sous-marins allemands qui étaient terribles. Donc, comme on ne pouvait pas camoufler entièrement un bateau, on avait utilisé le Razzle Dazzle, le camouflage Razzle. C'est-à-dire qu'on recouvrait les bateaux d'un camouflage qui, paradoxalement, était très voyant. C'était un peu comme un costume d'Arlequin. C'était un camouflage disruptif. Je veux dire par là que quand le commandant d'un sous-marin allemand le voyait dans son périscope, eh ben, il n'arrivait plus à savoir dans quelle direction il allait. Et donc, et le temps qu'il se décide, le bateau avait le temps en fiche le camp. Donc,
ah oui, on transformait sa forme extérieure, quoi, pour pas qu'on sache où était l'avant et l'arrière, en fait.
Exactement.
Ah, ok, d'accord. Très malin, finalement. Et ça a marché toute la guerre, ça.
Eh ben, je dirais pas toute la guerre, mais ça a eu une certaine efficacité.
Ah ouais.
C'était pas la panacée non plus. Hein.
Et donc, c'était des bateaux à vapeur, quoi. Voilà.
Essentiellement. Enfin, c'était la navigation de l'époque. Donc,
ouais, ouais.
Donc, je pense quand même qu'on avait déjà dépassé le stade de la vapeur. Donc.
Bon. Et donc, ils arrivaient. Alors, Brest, il y avait trois parties, c'est ça, c'est ce qui correspond actuellement à quoi? Port de plaisance, port militaire et port.
Grosso modo, oui.
Commerce, donc, quoi. D'accord. Donc, ça, c'était un intérêt. Donc, qu'est-ce qui se passait alors après après, une fois le débarquement, ils allaient où exactement
Eh ben, au début, donc, ils étaient entassés dans un vaste hangar installé près de la gare de Poulicalor. Donc, mais ces situations étaient encore acceptables aussi longtemps qu'ils arrivaient à un rythme peu soutenu. Mais à partir du mois de mars 1918, la donne a changé. Cette fois, les soldats américains étaient 32 000 à Brest. Et sur le front, les besoins d'effectifs se font vraiment sentir, d'autant que la Russie ne participe plus à l'effort de guerre.
Oui, c'est ça.
C'est là qu'il a fallu effectivement installer un camp d'hébergement digne de ce nom pour les militaires immobilisés faute de train. Donc, et c'est là qu'on a construit le camp de Pontanezen.
Ah, d'accord. Alors pourquoi Pontanezen, on sait
Bah, tout simplement parce que, d'une part, c'était une zone rurale, elle était effectivement inhabitée, même s'il y avait eu une ancienne caserne. Et puis, c'était déjà un terrain militaire, puisque c'était utilisé comme champ de manœuvre par l'armée française. Donc, le terrain était disponible, c'est tout.
Ok, donc un camp de Pontanezen, donc ça veut dire quoi camp? Il y a quand même des baraques en dur, enfin, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi, en fait?
Eh bien, le camp, c'est un camp de transit qui avait 687 hectares. On y installait des tentes et des baraques. Donc, c'était...
Okay. Quand même, ouais, des baraques aussi, quoi.
On savait pas combien de temps la guerre allait durer, donc, comme dirait l'autre, qui pouvait le prévoir donc,
Eh oui, bien sûr. Et combien de soldats pouvaient être hébergés dans ce camp de Pontanezen, en gros?
Je n'ai pas le chiffre exact, mais pour vous donner une idée, il faut savoir aussi que ce qui peut donner une idée, c'est que les Américains étaient et sont toujours obsédés par les questions d'hygiène, et ils avaient un centre des infections qui pouvait faire passer 4000 hommes à l'heure. Donc,
ça donne une idée de l'ampleur. Quoi.
Oui, oui.
Ouais, ouais.
Ils disposaient aussi d'un auditorium de 3000 places, de foyers qui drainaient 15 000 hommes chaque soir. Donc, ça donne une idée, effectivement. Non, c'était un camp énorme destiné à accueillir des troupes très nombreuses. Oui.
Bah, c'était une deuxième ville dans la ville. Enfin, je ne sais pas combien Brest comptait d'habitants à l'époque, mais finalement, c'était presque. Ça ne doublait pas la population de Brest, mais presque, non.
On a quasiment parlé d'une ville américaine aux portes de Brest, oui. Parce que, ah oui, un point important quand même, c'est qu'à cette époque, c'était une zone rurale, et donc qui était limitrophe non seulement de la ville de Brest, mais aussi de la commune de Lambézélec, qui était encore autonome à cette époque. Donc,
Et qui n'était pas encore dans Brest. Okay.
Qui n'est pas dans Brest, même croix.
Bref, oui, tout à fait. Et donc, alors, les soldats, ils arrivaient, ils étaient acheminés au camp de Pontanezen. Enfin, j'imagine qu'ils n'y allaient pas à pied, si, où il y avait des cars, peut-être. Non, il y avait toute une logistique, en fait, qui se mettait en place une fois qu'ils débarquaient.
Oui, il y avait des. Ils avaient des voitures, notamment. Donc, d'ailleurs,
ouais.
C'était encore.
Ah oui, débarquaient avec les voitures.
Enfin, d'ailleurs, c'est. Oui, ils avaient des voitures qui, d'ailleurs, ont posé quelques problèmes en ville, puisqu'on n'était pas habitué à voir débarquer des voitures, et certains Américains avaient tendance à conduire comme des cow-boys. Donc, ça fait partie des rares. Ça fait partie des rares remous qu'il y a eu.
Mais ah oui, on va voir ça. Ouais, ouais. On va voir ça un peu comment les Bretons ont accueilli tous. Alors on les appelait les Samis, hein, parce qu'ils venaient du pays de l'oncle Sam, je suppose, non? C'est ça
Je n'ai pas dû la question, mais en tout cas, effectivement, il faut bien ça. On pas seulement les Samis, les Dog Boys aussi. Donc.
Dog Boy, pourquoi?
D-O-U-G-H-B-O-Y. Là, je ne connais pas. Là, je ne connais pas l'origine. Donc,
c'était des surnoms, quoi, qu'on leur donnait. Donc, ils passaient en gros combien de temps dans ces camps de transit, enfin, comme Pontanezen? Je crois qu'il y en a eu d'autres aussi.
Oui, effectivement, il y a eu aussi le camp de Saint-Marc qui était destiné aux Africains américains, les Noirs donc, et les Natives, ce qu'on appelait sottement les Indiens. Donc, ça pouvait durer plus ou moins un longtemps suivant les bœufs. Déjà suivant la disponibilité des trains et aussi suivant les nécessités et du front. Donc, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au bout d'un certain temps, bon, je l'ai dit, le camp était énorme, il était construit pour durer, mais finalement, il a surtout servi pour les soldats qui étaient en attente de rembarquement en Amérique. Donc,
dans l'autre sens alors.
Oui.
Ah, ceux qui avaient terminé.
Oui, une fois l'armistice Une fois l'armistice signé, n'oublions pas que l'armistice, ça ne veut pas dire la paix, il a quand même fallu quasiment une année entière pour débarquer, pour embarquer tous les Américains, tous les soldats américains. Donc.
Ah oui, donc le camp de Pontanezen a perduré encore combien de temps ? Un an, pratiquement
Quasiment, oui, un an.
Ah ouais. D'accord, donc en tout, il a eu une durée de vie, ce camp, de mars de 2018 jusqu'à deux ans presque.
Oui, oui.
Donc pour les Américains dans un sens et les Américains dans l'autre. Mais en gros, un Américain qui débarquait avant de prendre son train, il restait quoi ? Une semaine, un mois, ça dépend enfin...
Non, vraiment, c'était variable.
Ah ouais, il n'y avait pas de moyenne, quoi, en fait.
Je pense que... Non, je pense qu'ils n'ont pas... Non, il n'y avait pas de moyenne. Ça pouvait durer plus ou moins à longtemps. Donc,
Donc, j'imagine que la gare de Brest a pris aussi une sorte d'ampleur. Enfin, elle a dû s'adapter, non ?
Là, je ne pense pas, non. Donc, j'avais découvert une liste de tous les investissements qui étaient faits par les Américains, des investissements qui étaient assez énormes quand,
ah oui, par
quand
exemple,
même.
Oui.
Donc, en tout, il y en eut pour 6 millions de dollars. Et rien que la construction du camp de Pontanezen en a coûté 2 millions. Donc,
et c'est les Américains qui ont tout financé ?
Quasiment tout, oui.
Ah
donc,
oui,
oui, oui bah, c'était eux qui. Bah, j'ai presque envie de dire c'était moins des choses. La France était quasiment exsangue par son propre effort de guerre. Donc,
oui. Oui, on avait déjà, au bout de 3 ans de guerre, on avait déjà. C'est sûr du mal. Alors, comment est-ce que les soldats américains ont été accueillis par les Bretons ?
Au début, plutôt bien, j'ai envie de dire. Donc, pour des raisons évidentes. Parce qu'il faut savoir que Brest, du fait de sa couverture hospitalière importante, fut rapidement sollicité pour les soins des soldats blessés évacués. Donc, on n'ignorait rien de la réalité de la boucherie. Il y avait de quoi donner des cauchemars à ceux dont un proche avait été envoyé au combat. Donc, en 1917, on était impatients de voir la guerre s'éterniser, d'autant que les autorités avaient promis qu'elle serait rapide. Donc,
Oui, d'accord. Donc on comptait sur les Américains pour mettre fin à la guerre.
Oui, vraiment. Et en plus, cette présence américaine était vectrice d'un certain nombre de services qui ont adouci cette vie quotidienne marquée par la guerre, comme les spectacles organisés dans les hôpitaux, les douceurs distribuées aux blessés, ou encore la mission Rockefeller qui donna des conférences sur la tuberculose et les techniques de prévention de cette maladie qui faisait des ravages à l'époque. Parmi les participants de cette mission, on comptait un certain Louis-Ferdinand Destouches, plus connu comme romancier sous le nom de Louis-Ferdinand Céline. Donc, bon. Et puis cette présence militaire était profitable plus d'un titre à l'économie locale. L'infrastructure américaine était créatrice d'emplois qui ne se limitait pas aux tâches de buandière, de blanchisseuse, de raccommodeuse qu'on a volontiers mises en avant. Elle recrutait aussi des cuisiniers, des plongeurs de cuisine, des femmes de chambre, des bonnes, des chauffeurs mécaniciens, des cireurs de chaussures, des plombiers, des charpentiers, des attelages de tombereaux avec conducteurs. Et je passe tous les emplois indirects induits par cette présence. Et puis c'était aussi profitable au commerce local parce que la guerre n'avait pas épargné, ne serait-ce qu'à cause de la mobilisation. Alors une nouvelle clientèle potentielle était plutôt bienvenue. Et d'ailleurs, c'est là que ça a commencé à coincer aux yeux des autorités américaines, qui n'appréciaient que modérément de voir les marchands d'ambulantes envahir les abords du camp. Et en plus, plus grave, on a dénombré 13 bars clandestins ouverts dans les fermes de Gouesnou. Le trafic d'alcool s'est développé dans tout le secteur, ce qui est d'autant plus gênant que certains États américains pratiquaient déjà la prohibition. Donc,
Oui, exact, c'est vrai. Et les Américains, quand ils apportaient, vous parliez de douceur, c'est quoi ? C'était pas les chewing-gums ? Enfin, c'était des chocolats, non ? C'était quoi ?
Si, il y avait déjà les chewing-gums. Hein, donc,
Ah ouais, d'accord. Donc ce genre de confiserie qu'on connaissait pas trop en France encore, c'est ça ?
Oui.
Des bars chocolatés genre Mars, je ne sais pas si ça existait, Mars en 1917.
Non, je ne pense pas, pas encore.
D'accord. Et les Bretons, donc, à l'inverse, comment est-ce qu'ils étaient perçus par les Américains, pour ce qu'on en sait, en tout cas ? Je sais pas si...
Bah, effectivement, on a assez peu de témoignages, mais ça existe quand même. Ils ont été analysés notamment par Yann Lagadec en 2017, à l'occasion des commémorations. Donc, et en plus, l'avantage, ce sont des sources non officielles, et donc un peu plus fiables que le Pontanezen. Que les sources officielles, dont le Pontanezen Dog Board, qui était le journal interne du camp de Pontanezen.
Ah, il y avait un journal,
oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces documents, on a souvent des noms prestigieux, dont le lieutenant Harry S. Truman, qui est devenu président des États-Unis en 1945. Bon,
oui.
Alors, qu'est-ce qu'il dit, ces témoignages ? Eh bien, d'abord, l'arrivée à Brest était vécue comme un soulagement après 2 semaines de traversée.
Deux semaines, oui.
Parce que, oui, vous parliez des bateaux un instant, j'aurais pu souligner que c'était un confort très relais. C'était dans un inconfort assez relatif, donc ils étaient vraiment entassés les uns contre les autres, ce qui n'a pas été, ce qui au niveau sanitaire n'était pas terrible. Ça a notamment aggravé la propagation de la grippe espagnole.
Au retour, donc, oui.
Mm-hmm. Non, à l'arrivée.
Ah non, même à l'arrivée. Ah, ouais,
ils ont littéralement apporté avec eux la grippe espagnole, donc oui. Alors, donc en plus, il y avait la peur d'être torpillé par un sous-marin allemand. C'était toujours possible. Hein. Je parlais du camouflage d'Hatzel, mais c'était pas une panacée. Donc Donc, une fois passé le soulagement d'avoir fini avec une traversée désagréable et d'avoir échappé aux assauts de l'ennemi, donc ils débarquaient à Brest et exprimèrent parfois des récriminations contre leur hiérarchie. Par exemple, le capitaine G. O'Cliffe déplora que les repas insuffisants, le manque de courtoisie des officiers chargés d'accueillir et surtout la pénurie d'équipement. Donc, la machine de guerre américaine n'a pas tout de suite atteint sa pleine et entière efficacité. Bon, et les Bretons alors ? Eh bien, le marine Henry K. Kinding en parle comme d'une ville très pittoresque, peuplée de gens très pauvres. Et le soldat Paul B. Hendrickson s'exclame dans son journal « Quel beau pays et quel peuple étrange !» Donc, globalement, les Samis sont charmés par les paysages bretons où tout est vert, c'est ce qu'ils disent, et aussi par l'architecture ancienne.
Imaginer Brest telle qu'on la connaît aujourd'hui.
C'est ce qu'ils ont. D'autant qu'ils découvrent ce qui leur manquait cruellement, c'est-à-dire du pittoresque, pas de gratte-ciel, pas de préfabriqué. Il situe même plusieurs cathédrales dans la ville, alors qu'il n'y a jamais eu de cathédrale à Brest. C'est une confusion fréquente. En cours aujourd'hui, certaines personnes pensent que l'église Saint-Louis est une cathédrale. Mais c'est faux, même s'il y a des monuments en tel. Bon. En fait, une seule chose déplaît aux Américains dans le paysage, ce sont les urinoirs dont l'hygiène était assez doux et douteuse. Et c'était assez inimaginable pour eux. Mais il disait que le peuple était étrange. À lire les témoignages, les Bretons seraient de petite taille et habillés bizarrement. Les Américains sont surpris par les sabots de bois, les habits noirs des femmes et les pantalons larges des hommes. Et puis, il y a la barrière de la langue. L'apprentissage du français ne sert pas à grand-chose pour communiquer avec les autochtones qui parlent breton ou, dans le meilleur des cas, parlent français à leur façon. Le fameux « parlez F » qui a été remis au jour par les gauristes, notamment. Mais tout ça ne déplaît pas aux Américains. Au contraire, ils profitent du dépaysement que ça leur procure. Ils visitent Brest en touriste avec le plaisir. On sent une relative condescendance, notamment quand il est question de l'hygiène ou de l'alcoolisme. Mais leur vision de Brest et de sa région est restée globalement positive malgré tout. Même s'ils avaient bien conscience que la population locale profite de la situation, que ce soit en mendiant aux abords du camp ou en venant leur vendre des marchandises à des tarifs plus ou moins prohibitifs.
Ah bah c'était de bonne guerre, si j'ose dire.
Oui, c'est le mot, oui.
Mais les Bretons étaient encore si pauvres à cette époque, en 1917,
aux yeux des Américains, en tout cas. Aux yeux de certains Américains, je vous l'ai dit, on a finalement assez peu de témoignages. Et entre nous, il faut savoir aussi que l'Amérique, à l'époque, c'était pas New York partout.
Il y avait quand même des gens qui venaient de zones rurales.
Il faut sortir de l'idée sur laquelle la Bretagne est une province arriérée où tous les habitants et les pieds dans les crottes de cochon, et l'Amérique, au contraire, une Eldorado de progrès, de prospérité. Non, je pense franchement que le plouc du Wisconsin qui faisait son service militaire ne devait pas être si dépaysé que ça, à part le paysage.
Oui, c'est ça. Donc, en tout, 800 000, donc.
Très exactement.
804 000. Et
803 640 hommes.
Ah oui. Donc, là, on compte dans les deux sens. Enfin, c'est-à-dire que, en général, c'est les mêmes. Ceux qui étaient arrivés par Brest, ils repartaient par Brest.
Ceux qui avaient la chance de survivre, j'ai envie de dire. N'oublions pas qu'ils étaient là pour faire la guerre, ça n'a rien de glamour.
Mais l'avantage de Brest, c'est que là, on était quand même, à part les sous-marins, ce qui n'est pas une mince affaire, mais on était loin du front, c'est ça. J'imagine que l'ambiance était quand même aussi pour eux, c'était une ambiance de paix, malgré tout.
Oui, bien sûr. Donc
c'était ça aussi le côté pittoresque entre guillemets.
Disons que pour ces gens assez jeunes, éloignés de leur pays et qui donc effectivement allaient sur le front de l'Est où ils savaient très bien ce qu'ils risquaient. Effectivement, c'était une pause bienvenue.
C'est ça. Et donc, ils ont bien cohabité, donc à part les embouteillages, c'est ça, pendant toute cette période, les Brestois et les Samis, ou les Américains en tout cas.
Vous savez, quand deux peuples qui, à l'époque, les peuples ne se connaissaient pas aussi bien qu'aujourd'hui, bon, encore qu'on pourrait discuter.
Il n'y avait pas Internet et ni la télévision en tout cas.
Non, effectivement. Mais effectivement, on peut être étonné par le peu de heurts qu'il y a eu dans ces deux ans de cohabitation. Bon. Il y en a eu mais il y en a eu relativement peu. Alors pour commencer, il y a eu la grippe espagnole, cette maladie qui n'avait d'espagnol que le nom, qui se déclare parmi les troupes au mois d'août 1918, et en grande partie à cause de la promiscuité et des conditions de travail essai à bord de navires qui ont favorisé la contagion. Sur Terre, la progression était fulgurante. La maladie a fait quelques ravages dans la région. N'oublions pas que 1817 soldats américains ont été inhumés au cimetière de Lambézélec.
Ils ne sont pas morts au combat.
Non, ils sont morts de cette maladie. Et ils ont aussi provoqué le décès de 450 jeunes marins dans les dépôts de Brest et de Lorient. Donc la population locale n'a pas été épargnée. Bon. Ça a joué dans une relative, j'ai bien dit relative, dégradation de l'image des Américains auprès de la population locale. Mais il n'y a pas que ça. Alors, il faut aussi savoir que, je disais à l'instant, l'armistice ne signifie pas la paix. Le climat est donc resté tendu jusqu'à la signature du traité de Versailles, offrant un terreau favorable pour les revendications et des ordres sociaux. Ensuite, la fin du conflit a entraîné une augmentation des prix des denrées courantes, situation d'autant plus difficile à supporter que les Samis avaient parfois tendance à trop montrer leur facilité de moyens.
Ah oui, parce qu'ils avaient plus d'argent. Oui. Ils étaient bien payés, entre guillemets.
Et puis enfin, comme la fin de la guerre se précisait malgré tout, toutes les personnes qui avaient une activité dépendante de la présence américaine ont vu leur contrat toucher à leur fin. Même le camp de Pontanezen, qui était un employé important, a commencé à réduire ses effectifs. Et pour ne rien arranger, il y a les réquisitions, qui étaient toujours mal vécues, notamment celles des terrains, ou encore celle du vapeur Île d'Ouessant à la fin de l'été 1918, qui a empêché la liaison avec les îles. Elle fut rétablie qu'en octobre, grâce à l'intervention de l'amiral Wilson. Il y a aussi eu les pollutions, dont témoignait notamment une plainte contre les eaux usées sortant du camp de Pontanezen, ou encore les accidents de la route, dont je parlais un instant. Mais bon, globalement, je répète, l'image des Américains est restée positive jusqu'à leur départ. Et leur souhait de les voir partir peut aussi se lire comme l'expression d'une volonté un peu plus légitime de tourner la page de la guerre. Donc, yeah. Notez bien qu'avant de partir, les Samis ont eu l'occasion de redorer leur blason le 3 mai 1919, quand le théâtre municipal de Brest a pris feu. Et les pompiers américains ont joint leurs efforts à ceux de leurs collègues brestois. Résultat, les dégâts matériels furent importants, mais circonscrits. Le feu ne s'est pas étendu aux maisons voisines et on ne déplora aucune victime grave. Donc ils ont vraiment quitté Brest sur un bon souvenir.
D'accord, bon, c'est bien, en jouant les pompiers. Et alors on dit qu'ils ont apporté le jazz et le basket en France en passant par Brest. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la légende ?
Eh bien, disons que ce n'est pas tout à fait vrai. Bon, d'abord, il faut savoir, concernant le jazz, bon, déjà il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle le jazz. Donc,
Eh oui, c'est vaste, on sait bien.
Et déjà, le jazz était déjà connu en France. Donc, et on avait déjà joué du ragtime à Brest, ce n'était pas totalement inconnu. En plus, la légende veut que le jazz serait arrivé grâce au lieutenant James Earp, qui aurait joué une Marseillaise swingée en débarquant à Brest. En fait, le problème, on ne sait pas exactement ce que James Earp a joué à ce moment-là.
Ah oui, il n'y avait pas eu d'enregistrement, malheureusement.
Oui, on n'a pas de preuves matérielles.
Bon, d'accord. Donc peut-être la Marseillaise, mais ce n'est pas sûr. Quoi.
C'est même pas sûr du tout. Donc, quant au basket, lui aussi était déjà connu en France. Donc, ce n'était pas une nouveauté non plus. Bon, admettons effectivement qu'il était peu connu à Brest. Et effectivement... il est encore peu connu, voire inconnu. Mais découvrir un sport nouveau n'entraîne pas forcément son adoption. Alors, le basket a été vite adopté. La Légion Saint-Pierre, par exemple, en a fait des démonstrations dès 1920. Mais en revanche, le football américain, ils ont joué aussi. Les Brestois ont été marqués par les beaux maillots numérotés des joueurs. Mais il s'est installé à Brest qu'à la fin des années 1980.
Donc, d'accord, donc il n'a pas vraiment pris... il est peut-être passé par là, dans le basket, mais il n'a pas vraiment pris... Tant que ça, quoi.
Donc, ce que je veux dire, c'est que ce soit pour le jazz ou pour les sports, la présence américaine à Brest a contribué à renforcer et à accélérer l'influence des États-Unis en Europe, mais elle ne l'a pas provoqué dans son entièreté. Donc, il faut prendre ces légendes avec des pincettes.
D'accord. Et malgré tout, alors on disait, il n'y a pas eu trop de choc des cultures, il y a eu plutôt une bonne cohabitation, et il y a même eu des mariages, enfin des Françaises qui se sont mariées, parce que c'était majoritairement des hommes. Je ne sais pas s'il y a eu des femmes qui sont américaines qui sont arrivées.
Non, je ne pense pas, non. Ouais. Et donc, il y en a eu quelques-unes, mais elles devaient être minoritaires. Donc,
oui, c'est ça, oui, vraiment. Et donc les Françaises, certaines se sont mariées à des soldats et sont parties aux États-Unis, alors
Alors là, pas de problème. Ce fait est bien avéré. Il n'est pas anodin. Hein. Donc, on compte effectivement, après l'arrivée des forces alliées, une augmentation du nombre de mariages mixtes. Et le major Abbott Boone comptabilisa entre mai et décembre 1919 2293 femmes qui embarquèrent vers les États-Unis, avec un pic de 765 femmes au mois d'août. Il a même fallu aménager une partie du camp de transit du Bougain pour accueillir ses épouses françaises. C'est ce qu'on a créé le Bride's Camp, le camp des promises. Et d'ailleurs, l'une de ses épouses brestoises fut la grand-mère de Sylvester Stallone. Donc c'est un phénomène important, suffisamment en tout cas pour être pris au sérieux par les autorités et militaires. Donc c'était pas anodin. Mais n'oublions pas que le but premier de ces soldats était quand même de faire la guerre. Hein, donc. Et puis pour rentrer au pays avec une petite bretonne son pactage, il fallait encore qu'ils rentrent vivants. Et puis il faudrait s'imaginer que les autorités françaises aient tout fait pour favoriser une fuite des filles à marier. Alors, je ne vais pas dire qu'elle décourageait les mariages entre Français et Américains, mais les procédures étaient quand même assez lourdes. Il y avait de quoi décourager les prétendants qui n'étaient pas sincèrement amoureux. Outre le fait que la mariée devait répondre à une enquête de moralité qui pouvait déboucher sur l'annulation de l'établissement de son passeport, le marié militaire, de son côté, devait fournir une pièce attestant de sa déclaration faite sous serment devant le juge avocat militaire au sujet de son état civil et de sa capacité matrimoniale, plus une attestation par laquelle le commandant de son unité certifiait qu'il n'avait connaissance d'aucun renseignement contraire à ses déclarations. C'était quand même pas rien. Donc
ça, c'était plutôt l'armée américaine qui faisait ce genre de contrôle, quoi, en fait. Ou l'État français.
Les deux, j'ai envie de dire. Donc, qui travaillent conjointement pour ce point de vue-là. Et puis, bon, si beaucoup de soldats américains sont effectivement repartis avec une police française, d'autres, et ça, c'est un peu plus rare, ont préféré ne jamais revenir au pays et s'installer auprès de leurs bien-aimés.
Voilà, c'est la question que j'allais poser. Bah oui. Combien on sait, combien il y en a, je ne sais plus exactement.
On le sait par des recherches généalogiques, notamment par la revue Le Lien. Bon, ils ont été beaucoup moins nombreux. Hein, donc, oui. Mais ils ont existé. Et je pense que leur reculation est d'autant plus regrettable qu'elle donne lieu, consciemment ou inconsciemment, à une vision partielle des rapports entre Bretagne et les États-Unis. Je disais à l'instant qu'il ne faudrait pas s'imaginer que les États-Unis étaient forcément vus comme une terre d'Eldorado et de progrès. Donc, non. Et puis, il y avait eu des Bretons qui devaient vraiment attacher leur pays. Il y a eu des Américains qui sont tombés amoureux de cette région, donc il ne faut pas envisager la Bretagne d'époque uniquement sous le jour de l'immigration. Il est avéré donc que des Samis ont apprécié la Bretagne. Il n'y a rien incongru à ce que certains s'y soient installés. Donc, c'était pas les plus nombreux, mais ils ont existé.
D'accord. Et bon, alors juste très rapidement, est-ce qu'il reste des vestiges visibles de cette époque-là à Brest, éventuellement, ou des petites traces à part le cimetière dont on a parlé?
On peut voir ici et là certaines bornes laissées par les Américains, mais elles datent plutôt de la Seconde Guerre mondiale. Donc, le vestige le plus visible entre guillemets, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un vestige? C'est le monument américain, installé sur le cours d'Ajau, et qui effectivement commémore l'action des forces navales américaines. Donc, j'ai envie de dire, c'est le vestige le plus visible.
Le meilleur témoin, en tout cas. D'accord. Bah, merci beaucoup, Benoît Quinquis. Vous reviendrez nous parler de l'histoire de Brest, puisque vous avez d'autres sujets sous le coude.
Oui, j'espère que je ne m'exprime pas trop mal.
Très bien, merci. À bientôt.
À bientôt.